France Culture. France Culture, question du soir. Quentin l'a fait.
Alors que les tortues marines ont survécu aux deux grandes extinctions de masse, elles semblent résistantes aujourd'hui encore. Après plusieurs décennies d'inquiétudes à leur sujet, l'espèce n'est plus considérée comme menacée d'extinction par l'Union internationale pour la conservation de la nature, et ceci depuis le 10 octobre dernier. Est-ce grâce aux mesures mises en œuvre pour préserver l'espèce ou bien grâce à son impressionnante résistance? Peut-on dire par ailleurs quelle est l'espèce résiliente par excellence? Doit-on pour autant s'en réjouir? Pour mieux comprendre les tortues, qui elles sont, leur capacité à résister et à survivre, un invité ce soir, David Grémillet. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes océanographe et directeur de recherche au Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive. Vous êtes rattaché au CNRS à Montpellier et l'auteur de cet ouvrage passionnant intitulé « Les discrètes rêves de tortues marines ». C'est un ouvrage qui est apparu aux éditions Actes Sud en septembre 2025. Merci d'être avec nous ce soir dans Questions du soir.
Non, mais je suis désolé d'être pessimiste, mais je suis absolument pas... Il n'y a pas de quoi être optimiste, je veux dire. Bon, ça fait 40 ans que je travaille comme ça sur le terrain, et je vois une dégradation partout. En Guyane, par exemple, je me suis battu pour un certain nombre de choses, le parc national, des réserves, etc. Comme tout ça, ça a été fait quand le parc national ou les réserves ont été faits, ça ne servait plus à rien de les faire, pratiquement. On sait très bien que leur paillage est en train de tout ficher en l'air. Donc c'est... Ou Mayotte, par exemple. Mayotte reste l'un des derniers lieux au monde où il y a énormément de massacres de tortues marines. Bon, alors qu'il y a un parc marin, il y a toutes les conditions sont là pour protéger.
Alors il faut, pour commencer, David Grémillet, éclaircir pour nous ce paradoxe apparent. On vient d'entendre la voix de Jacques Frété, chercheur français engagé dans la protection des tortues. Il nous disait en 2012 son pessimisme sombre quant à l'avenir de l'espèce. Et dans le même temps, ces nouvelles qui viennent d'apparaître de l'UICN, les tortues vertes qui semblent résister de plus en plus, de mieux en mieux. Est-ce que Jacques Frété parlait bien de ces tortues vertes ou bien parlait-il d'une autre sorte de tortue?
Alors oui, donc je partage en partie son pessimisme à ce moment, au moment où il prend la parole. Et c'était le mien aussi il y a 20 ans, quand j'ai travaillé en Guyane française sur les tortues luttes. Pour moi aussi, c'était terminé. On allait perdre les tortues marines, l'ensemble des tortues marines, hein, puisqu'il y a 7 espèces. Mmh. Et plus spécifiquement, les tortues luttes, puisque au début des années 2000, sur les plages guyanaises, il y avait encore 18 000 pontes par an de tortues luttes. 10 ans plus tard, 10 fois moins. Donc c'était vraiment un effondrement de cette population. Et on avait toutes les raisons d'être extrêmement pessimistes pour le sort des tortues luttes de Guyane, des tortues luttes en général et des 7 espèces de tortues marines qui peuplent les mers et les océans, puisque en fait 3 d'entre elles étaient d'ores et déjà en danger critique d'extinction, 3 étaient menacées, et on en reparlera, la tortue verte se portait un tout petit peu mieux.
Vous parlez au passé, cela signifie que votre pessimisme n'est plus, qu'il y a de bonnes raisons d'espérer aujourd'hui quant à l'avenir et au devenir des tortues, lutte en l'occurrence?
Je pense que ça a été le point de départ de cette enquête et de l'enquête qui a mené à cet ouvrage. Mmh. C'est que 20 ans plus tard, je suis tombé sur des chiffres et des publications très sérieuses de mes collègues qui montraient une récupération des 3/4 des populations étudiées de tortues marines de par le monde. C'est énorme. Et j'arrivais pas à y croire. Donc c'est pour ça que je suis parti à la rencontre non seulement des tortues, mais aussi des personnes qui les étudient, qui les protègent sur le terrain. Et je me suis rendu compte que quand on se donnait les moyens de la protection, ça fonctionnait.
Alors mettons un instant les tortues luttes de côté. On y reviendra, on retournera en Guyane. Concentrons-nous un instant sur ces tortues vertes qui font l'actualité justement, puisque, je le disais, l'Union internationale pour la conservation de la nature a changé le statut de ces tortues. Elles ne sont plus menacées d'extinction comme elles l'étaient. La population globale des tortues vertes a augmenté d'environ 28% depuis le début des années 70, malgré des menaces persistantes sur quelques sous-populations. Comment on explique ce changement de statut et le fait que ces tortues soient de plus en plus résilientes en apparence?
Eh bien, c'est que les mesures de conservation sur les plages de ponte, sur les sites de reproduction, sont efficaces.
C'est cela qui a fonctionné.
Ce qui, pour moi, il y a 20 ans, était absolument impossible. C'est-à-dire que j'étais face à une équation impossible à cause des captures accidentelles des adultes sur les engins de pêche en mer. Parce que chaque fois qu'une tortue se noie sur une palangre, donc ces longues lignes avec les hameçons qui doivent capturer les poissons, mais qui capturent aussi des tortues marines, chaque fois qu'une tortue se noie dans un filet, dans un chalut, on perd cette tortue, mais on perd également toute sa descendance. Et comme c'est des espèces qui vont se reproduire seulement parfois après plusieurs décennies, qui ont un pas de vie très lent et très long, et à l'heure actuelle, on sait par exemple qu'on perd encore des centaines de milliers de ces tortues adultes sur les engins de pêche. Pour moi, c'était impossible que les survivantes puissent reproduire suffisamment pour compenser cet effondrement des populations. Et ben si, en fait, l'histoire m'a donné tort, et tous ces collègues admirables sur les plages tropicales qui défendent les plages de ponte, qui défendent les sites de reproduction, les nids de tortues, avaient raison, parce que ça a permis régionalement de reconstituer ces populations, et ça a été notamment le cas pour les tortues vertes, un petit peu partout dans le monde.
De quoi parlez-vous très concrètement lorsque vous parlez de mesures de conservation? Qu'est-ce que l'on a fait pour protéger ces plages, pour protéger ces espaces de ponte? Qu'est-ce qui a été réalisé là, une fois de plus, par l'humain?
Déjà, on a arrêté de manger toutes les tortues qui montaient sur les plages pour pondre, les tortues femelles, mmh. Ce qui se passe encore dans certaines parties du monde, notamment à Madagascar. Et là, le problème numéro un, c'est la pauvreté. Donc, dans certaines parties du monde, on a réussi à pallier à ces consommations directes de tortues adultes. Et après, on a protégé les nids pour empêcher le pillage des nids par les humains, mais aussi par les chiens errants, notamment, et tous ces prédateurs. Et après, pour certaines populations vraiment sensibles aussi, on a gardé les nids jusqu'à ce que les petites tortues puissent émerger à la surface de la plage et partir en mer.
Dans le même temps, il faut tout de suite tempérer cet optimisme. Je vous cite David Grémillet, vous écrivez « Les tortues marines étaient peut-être 100 fois plus nombreuses au cours de l'ère précolombienne par rapport à aujourd'hui. Dans les Caraïbes, on estime qu'il y avait 50 à 150 millions de tortues vertes avant l'arrivée des Européens, alors qu'elles ne sont plus que quelques centaines de milliers aujourd'hui. » Fin de citation. Cela va bien, mais il y a une époque où cela allait beaucoup mieux tout de même.
Et ça reste très fragile. Puisque à l'échelle de la planète, donc pour les 7 espèces de tortues marines dans leur ensemble, il y a peut-être quelques millions de tortues marines sur cette planète. Or, comme je l'ai dit juste avant, il y a des centaines de milliers chaque année qui meurent sur les engins de pêche. Vous voyez l'ampleur du problème.
Alors je voudrais que l'on retourne en Guyane s'intéresser à ces tortues luttes dont vous nous avez parlé un peu plus tôt dans cette discussion, grâce à un reportage datant de 1999.
9h ce matin, la plage de Yalimapo. On s'active, on charge la barque du chef Daniel. Direction Fares Aztec, à quelques 4 km du village. C'est là que le filet tueur a été signalé. Trois quarts d'heure de canot plus tard, les visages se figent. Nous découvrons l'horreur. Une quinzaine de cadavres balloutés par les flots. Exclusivement des luttes. Des femelles qui espéraient rejoindre la côte voisine pour perpétuer l'espèce, pour donner la vie, prise dans les mailles d'un filet assassin. Un filet aux mailles de 140, long de plus d'un kilomètre. Un de ceux utilisés par la pêche industrielle sur Inamez.
Pourquoi êtes-vous beaucoup, beaucoup plus inquiet, David Grémillet, s'agissant des tortues luttes? Et en vous interrogeant, je me dis, nous sommes à la radio, il faut nous décrire ces tortues luttes. À quoi ressemblent-elles?
Des géantes. Des tortues marines géantes qui peuvent mesurer 2,20 m de long, peser 600 kg, le poids d'un piano à queue. Donc vraiment des géantes aussi d'une beauté hallucinante, avec cette couleur bleutée, ces taches rosées et une capacité de plongée incroyable. Elles descendent jusqu'à 1200 mètres dans l'Atlantique. Donc des machines à plonger, à traverser les océans absolument incroyables. Et une espèce que, malgré les signaux positifs qui concernent notamment les tortues vertes, une espèce qu'on pourrait perdre à l'échelle de mon existence, puisque dans le Pacifique, la population régionale de tortues luttes dans le Pacifique s'est effondrée de 99% à cause des captures accidentelles sur les palangres dans le Pacifique Sud-Est notamment.
99%, c'est le chiffre aujourd'hui qui est établi par la recherche ?
Ouais, tout à fait. Donc il y a des petits restes de population de tortues luttes en Papouasie, en Indonésie notamment, mais c'est extrêmement fragile. Et ça va un tout petit peu mieux pour les populations de tortues luttes dans l'Atlantique. Mais là aussi, en fait, le grand levier maintenant qu'on a en faveur de la protection des tortues marines, c'est la réduction des captures accidentelles. Là, il va vraiment falloir faire quelque chose.
Il y a cette idée selon laquelle l'une des menaces existentielles fondamentales à l'encontre des tortues, c'est le plastique. Le plastique qui est sur nos plages, le plastique qu'elles peuvent rencontrer également en nageant. À quel point cela est-il vrai ?
Alors c'est ce que je pensais en débutant cette grande enquête autour du monde. Je me disais aussi, voilà, une des grosses menaces, c'est le plastique pour les tortues marines. Eh ben non. Donc il y a même une grande spécialiste des tortues marines en Méditerranée qui m'a dit, oui, mais bien sûr, toutes les tortues méditerranéennes, elles mangent des microplastiques, mais c'est jamais ça qui les a tuées.
C'est pas ça qui les tue.
Ce qui les tue, ça peut être des fois un simple fil en nylon perdu dans la mer dans lequel elles vont s'emmêler. Et malheureusement, la Méditerranée, c'est le point chaud des captures accidentelles de tortues marines, avec des dizaines de milliers qui meurent dans les engins de pêche tous les ans, alors qu'on estime la population de tortues vertes de la Méditerranée à seulement 10 000 hein, pour les femelles reproductrices. Donc on voit là la fragilité de cette situation. La Méditerranée, c'est 10% de toutes les captures accidentelles sur la planète.
La situation des tortues mâles vous inquiète-t-elle plus encore en comparaison des femelles?
Alors les tortues mâles font face à une autre menace, et c'est le réchauffement climatique. Parce qu'en fait, c'est la température...
Qui les touche spécifiquement?
Alors oui, parce que c'est la température de la plage autour du nid des tortues marines qui va déterminer le sexe des petites tortues. Et si on dépasse les 29-30 degrés, les petites tortues qui vont naître seront que des femelles. Et donc manifestement, là, avec le réchauffement climatique, on a potentiellement un problème. Fort heureusement, il faut beaucoup moins de mâles que de femelles pour maintenir une population de tortues, puisque les mâles vont pouvoir s'accoupler avec de multiples femelles, et c'est les femelles qui vont pondre les œufs. Néanmoins, potentiellement, oui, on peut avoir un problème à cause du réchauffement climatique.
Alors venons-en, David Grémillet, j'allais dire au cœur de notre sujet, la capacité des tortues dans l'histoire à survivre à deux extinctions de masse. Je vous cite une nouvelle fois, vous écrivez « Les tortues marines, ces discrètes aux grands yeux, ont survécu à deux extinctions de masse. La plus célèbre, celle qui mit fin au règne des dinosaures, il y a 66 millions d'années. L'autre, plus ancienne, il y a 252 millions d'années. Conséquence d'un réchauffement dévastateur. » Alors commençons par la plus ancienne de ces extinctions de masse. Que s'est-il passé? Comment les tortues ont-elles réussi à survivre?
Alors pour les tortues marines, l'extinction de masse qui les a concernées, c'était il y a 200 millions d'années. Mmh. Et les tortues marines apparaissent il y a à peu près 220 millions d'années, donc juste avant. Et là, l'extinction de masse...
Elles sont toutes jeunes encore, alors.
Oui. Mais donc c'est une très longue histoire de la Terre. Hein. Donc les tortues marines ont nagé autour de la Pangée et dans la Tétis. Elles ont vu cette expansion de la Pangée au fur et à mesure de la dérive des continents. Donc c'est vraiment les archives de la Terre elle-même qui viennent à nous et qui viennent sur ces plages nous raconter cette longue histoire. Et vraiment un point de fascination absolu pour moi, c'est comment elles ont réussi à passer sous le radar et à traverser ces extinctions de masse qui, à chaque fois, ont dégommé 75% de toutes les espèces marines. Puis, il y a 66 millions d'années, tous les dinosaures et les tortues terrestres et les tortues marines traversent cette crise. En disant au revoir les dinosaures, à la prochaine les gars, nous on continue. Et elles arrivent jusqu'à nous, donc pour une nouvelle extinction de masse, hein, puisqu'on fait face à une crise de la biodiversité très sérieuse actuellement sur cette planète, qui pour la première fois est causée par une espèce, les humains. Et cette fois-ci elles s'en tirent, mais avec une petite aide de ces mêmes humains.
Alors je voudrais justement qu'on perce avec vous le mystère de cette survivance. Comment ont-elles fait, ces tortues marines, pour résister face à ces deux extinctions de masse? Première hypothèse, premier facteur, sinon peut-on parler, j'allais dire, d'une résilience des tortues permise par leur relative discrétion? Est-ce que cela, ça a été quelque chose d'utile pour les tortues marines?
Alors c'est oui, la discrétion, c'est un caractère qui me frappe, ouais, cette capacité à passer sous le radar même dans les zones en guerre. Les tortues marines sont au large de Gaza, au large de la Libye, actuellement. Plus concrètement, c'est un mode de vie très frugal, un métabolisme très bas, une fréquence cardiaque naturellement basse qui devient encore plus basse au cours de la plongée, bien sûr, hein, parce que c'est les records les tortues battent le record de la plongée en apnée avec 10 heures sous l'eau. Donc ce métabolisme extrêmement bas, donc des besoins en fait en nourriture qui sont très limités, et cette capacité à jeûner pendant des mois, voire des années, des facteurs antioxydants de fou, une capacité à lutter contre les cancers qui devraient nous rendre jaloux. Voilà, toutes ces choses combinées font qu'elles ont aussi une longévité absolument extraordinaire. Et aussi, il faut pas oublier leur carapace, cette carapace des tortues, comme chez les tortues terrestres, qui va vraiment les protéger des prédateurs.
Pour pas aller trop vite, David Grémier, je reste un instant sur leur capacité à faire sans oxygène. Vous dites, vous écrivez que les tortues marines ont une tolérance incroyable au manque d'oxygène. Alors, décrivez-nous justement comment cela s'incarne-t-il ?
Alors, j'ai testé, on le verra dans le livre, mes modestes capacités d'apnéiste pour les comparer avec celles des tortues marines. Ouais, on le voit bien en apnée pour nous les humains, quand même, assez rapidement, au bout de quelques minutes, ça se passe pas très bien. Et comme dans tous les sports extrêmes, ce qui va nous guetter, c'est l'acidose. C'est-à-dire que en manque d'oxygène, notre métabolisme va produire tout un tas de choses oxydantes, acides, qui vont nous faire mal, qui vont faire mal à nos muscles, par exemple. Et ben les tortues aquatiques et les tortues marines, les tortues d'eau douce et les tortues marines ont une capacité à résister à cette acidose. Comme si ça leur faisait absolument rien. Et donc ça, c'est un des secrets de leur capacité à rester très longtemps sous l'eau, avec en même temps ce métabolisme très bas. Parce que, bien sûr, hein, si on a une fréquence cardiaque de peut-être 1-2 battements par minute, on va consommer extrêmement peu d'oxygène.
Ce que vous nous expliquez par ailleurs, David Grémillet, c'est que les tortues marines ont une autre vertu. Elles sont persévérantes et cela s'incarne notamment dans leur capacité à nager parmi les jeunes tortues. À nager, j'allais dire, dès le plus jeune âge.
Quand les petites tortues émergent de la plage, sortent du nid, se retrouvent à la surface de la plage, elles vont se ruer vers l'océan, qu'elles perçoivent, parce que c'est au-dessus de l'océan la nuit qu'on a la zone la plus claire du ciel. Donc elles vont se ruer vers la mer pour échapper aux prédateurs terrestres, mais une fois arrivées dans l'eau, elles sont pas tirées d'affaire, parce qu'il y a plein de gros poissons voraces, en Guyane on les appelle les mâchoirants, qui sont là pour les gober. Et donc ces petites tortues qui font peut-être 6 cm de long, elles vont nager comme des folles pendant 2-3 jours sans s'arrêter, pour s'éloigner vite de la côte et laisser derrière elles tous les poissons côtiers qui pourraient les gober.
Et cela, ça les forme, c'est-à-dire qu'elles sont capables, très jeunes, très tôt, de faire face aux menaces, de faire face à d'autres espèces, de nager longtemps dans l'eau et donc de se former à une sorte de résilience ?
Le programme est très simple et le programme, c'est en fait s'enfuir. Et après, elles ont des réserves énergétiques qu'elles ont pu acquérir avant de sortir de l'œuf. Et donc, c'est avec ce petit réservoir de carburant qu'elles vont réussir à traverser la plage, puis à s'éloigner de la plage. Mais après, à un moment, il va falloir qu'elles commencent à se nourrir, à gober du plancton pour pouvoir survivent dans ces océans. Et ce qui est absolument hallucinant, c'est que par la suite, elles vont pouvoir nager d'elles-mêmes. On pensait toujours qu'elles étaient emmenées par les courants océaniques et qu'elles dérivaient comme ça passivement. En fait, pas du tout. Elles peuvent se déplacer par elles-mêmes à quelques kilomètres heure. Enfin, 1 km/h au départ. Et après, même arriver dans le Gulf Stream, par exemple, en Atlantique, ou sortir des anneaux du Gulf Stream, si elles n'ont pas trouvé assez de nourriture, pour entrer dans la mer des sargasses et aller se cacher sous ces radeaux d'algues, donc les sargasses, hein, qui causent tant de soucis aux Antilles françaises. Et bien, en haute mer, les petites tortues adorent les radeaux de sargasses parce que elles vont pouvoir aller se cacher sous ces radeaux, elles vont y trouver le gîte et le couvert, et il fera plus chaud aussi que dans l'océan alentour.
Est-ce que leur façon de s'accoupler, de se reproduire, leur confère également quelques atouts à ces tortues marines en matière de résilience?
Leur fécondité est hallucinante. Les centaines, voire les milliers d'œufs qu'elles vont pouvoir produire. parce qu'une tortue femelle, donc qui va quand même emmagasiner souvent des réserves corporelles pendant plusieurs années avant de revenir sur sa plage natale pour pondre. Cette tortue, chaque fois qu'elle monte sur la plage pour faire un nid, elle va peut-être pondre une centaine d'œufs et elle va le faire plusieurs fois en quelques semaines ou en quelques mois. Donc on se retrouve facilement avec des centaines, voire des milliers d'œufs. Et je pense que d'une certaine manière, c'est aussi cette fécondité qui les sauve.
Je vous propose de retourner à la rencontre de ces tortues luttes, ces tortues gigantesques dont vous nous avez déjà parlé, David Gréminier, grâce au CNRS qui nous explique justement comment les approcher, les observer, les étudier.
Pour tenter de comprendre le comportement de ces espèces, l'équipe de Damien Chevalier arpente chaque nuit la plage pour collecter des données sur les tortues venues y pondre. Grâce à des balises et à des transpondeurs, les scientifiques vont être capables d'identifier les individus et de suivre leur déplacement entre deux pontes. En 3 ans, 40 balises ont ainsi équipé les carapaces de certaines tortues et ont permis de dévoiler des zones de migration insoupçonnées. Pour Damien et son équipe, la tombée de la nuit sonne le début de la patrouille. Durant 8 heures, ils vont parcourir une trentaine de kilomètres pour réaliser leurs opérations de suivi. Une marche qui s'apparente souvent à une course contre la montre, car les tortues synchronisent leur ponte avec la marée haute et peuvent ainsi se retrouver à plusieurs au même moment sur la zone. Au milieu de la patrouille, un autre balai nocturne surprend les scientifiques. Une émergence. Après 8 à 9 semaines d'incubation, ces nouvelles tortues vertes se feraient un passage à travers le sable pour rejoindre l'air libre et la mer.
Ce n'est pas forcément une chose intuitive, David Gréminier, mais les tortues sont complexes à approcher, à observer, à comprendre également en tant que chercheur, en tant que scientifique. Il faut nous expliquer cela.
Alors, je suis un spécialiste de la survie des animaux en milieu extrême. Mais souvent, en fait, c'est la survie des chercheurs et des chercheuses en environnement extrême. Et je pense que les travaux de terrain, notamment en Guyane française, alors que d'autre part, je travaille au Groenland, je suis allé en Antarctique, c'est les travaux de terrain les plus durs que j'ai jamais effectués, parce qu'on se retrouve à arpenter ces plages dans la chaleur moite toute la nuit et pendant la journée, à cause de la chaleur, on peut pas très bien dormir pendant des semaines, voire des mois. C'est extrêmement dur. Et scientifiquement, on se trouve aussi face à un problème. Les tortues femelles viennent se reproduire de temps en temps sur cette plage, mais le reste du temps, les tortues sont en haute mer, on les voit pas. Et on sait pas. Au départ, on savait pas, est-ce que ces tortues luttes qui arrivent sur la plage guyanaise, est-ce qu'elles ont 10 ans? Est-ce qu'elles ont 20 ans? Est-ce qu'elles ont 1000 ans? Quand est-ce qu'elles vont revenir la prochaine fois? Quelle est leur fécondité? Combien de ces petites tortues qui partent en mer vont survivre jusqu'à l'âge adulte? En fait, on était face à une équation avec tellement d'inconnus que après recalculer des modèles mathématiques pour avoir une idée de la taille des populations, moi aussi en tant que jeune chercheur, ça me paraissait vraiment impossible. Mais heureusement, il y a eu des progrès technologiques hallucinants pour tout ce qui est suivi électronique avec des petites balises miniaturisées, des mouvements des tortues adultes, mais aussi des petites tortues en mer. Et là, des mondes de connaissances se sont ouverts devant nos yeux. On a compris que les tortues guyanaises remontaient jusque devant Terre-Neuve, jusqu'au large de la Rochelle, hors de la saison de reproduction, pour les femelles reconstituer leur réserve corporelle en gobant des tonnes de méduses, en fait, parce qu'elles se nourrissent que de méduses. Et donc, tout d'un coup, on a pu comprendre ces vies océaniques et comprendre ce qui allait conditionner la taille des populations. Et c'est là qu'on a buté sur le problème des captures accidentelles.
Est-ce que les programmes de conservation, notamment, viennent vous aider, vous appuyer dans ce travail de suivi, de recherche et de compréhension des tortues marines?
Assez fondamental. Et je pense que cet ouvrage sur les tortues marines, j'aurais pu le rédiger depuis mon bureau en me basant sur la littérature anglophone des pays du Nord, alors que c'est une thématique tropicale et équatoriale. Et donc ma volonté dans cet ouvrage, c'est par le biais des enquêtes de terrain, c'est de capter la voix aussi des personnes des pays du Sud qui s'investissent pour leurs tortues sur leur plage, parce qu'ils ont conscience en fait de de ces existences extraordinaires et aussi de tous les bénéfices que l'écotourisme aussi vont pouvoir apporter. C'est beaucoup plus profitable que les personnes viennent voir les tortues plutôt que de les manger. Et à partir de là, il y a des questions de recherche qui se construisent et qui se co-construisent avec les acteurs de terrain, notamment sur quand reviendra la tortue, combien de temps est-ce qu'elle va passer en mer, qu'est-ce qu'elle fait en mer, est-ce qu'elle reste là juste le long de la côte, est-ce qu'elle va de l'autre côté de l'océan, hein, parce qu'il y a une autre espèce, la tortue kawan par exemple, qui traverse facilement le Pacifique. Certaines qui ont été relâchées avec des balises Argos au Mexique, on les a retrouvées au large du Japon un an plus tard.
Le travail des ONG vous permet-il là aussi d'aller beaucoup plus loin dans ce travail? Il faut aussi rendre hommage, j'allais dire, à leur action pour comprendre, suivre ce qu'il se déroule concrètement sur le terrain et dans les espaces investis par les tortues marines.
Ah oui, totalement, et avec, je dirais, une persévérance qui n'a d'égal que celle des tortues marines elles-mêmes, en fait, le travail des ONG sur les plages, et que je dois dire, et j'en ai honte, que je dénigrais un peu quand j'étais jeune chercheur, c'est ce qui absolument a été payant pour la préservation des tortues marines.
Merci beaucoup en tout cas de ce travail, de ce livre aussi que l'on recommande. Il est intitulé « Les discrètes rêves de tortues marines ». C'est aux éditions Actes Sud, un ouvrage qui a paru en septembre dernier. Merci beaucoup David Grémillet, océanographe, directeur de recherche au Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive. Et merci également à celles et ceux qui ont fait cette émission. Cassandre Puel à la réalisation, Audrey Carme à la préparation, Éric Perruchot-Tribou à la technique.